France Culture.
Le journal est signé Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et tous. 10 ans après le 13 novembre, il en sera évidemment question dans ce journal. Nous rejoindrons dans un instant Simon Le Baron qui assiste après l'inauguration d'un jardin mémoriel situé en plein cœur de Paris aux premières minutes de la cérémonie d'hommage national aux victimes. Témoignage d'un ancien membre de la BAC 75 qui a participé à l'assaut donné au Bataclan. Et puis reportage à Molenbeek, cette commune de la banlieue bruxelloise dont étaient originaires plusieurs des terroristes qui ont semé la mort à Paris et Saint-Denis. Comme tous les jeudis, à 7h, notre rubrique « Maire, pourquoi faire ?» consacrée au maire de Magnanville où, le 13 juin 2016, un terroriste assassinait chez eux 2 policiers. Reportage Adrien Toffolet. Également au sommaire, un rapport de l'ANSES sur les risques dans le secteur du nettoyage et de l'entretien. TikTok poursuivi en justice par la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques pour piraterie audiovisuelle. Enfin, la facture mondiale des importations alimentaires qui devrait augmenter de près de 8% en 2025 sur un an. Facture augmentée par les cours du café et du cacao. Ce souvenir de l'effroi partagé il y a maintenant 10 ans et se soucier des âmes meurtries par le manque, l'absence, célébrer les morts, mais aussi la République, à tout le moins l'idée d'une République plus forte que l'obscurantisme qui a fauché des innocentes et des innocents à Paris et Saint-Denis. Une journée pour se recueillir et possiblement mettre des mots sur cette intranquillité permanente qui hante les vivants. Après des hommages au Stade de France, sur les terrasses et au Bataclan, l'inauguration d'un jardin mémoriel au cœur de Paris, une cérémonie en guise d'hommage national où vous vous trouvez, Simon Le Baron. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Simon, comment va-t-elle se dérouler cette cérémonie ?
Oui, c'est une cérémonie que les associations de victimes et les organisateurs ont voulu tourner vers la mémoire, bien sûr, mais tourner surtout vers l'espoir et vers l'avenir. Elle sera donc lumineuse, cette cérémonie, avec un jeu de lumière impressionnant et puis surtout centrée sur la musique et sur le rock pour rendre hommage à cette jeunesse et à ces vies fauchées il y a 10 ans. Il y aura un chœur spécialement composé d'une 40aine de membres des associations de victimes, le chœur de Radio France aussi, un requiem laïque qui a été composé pour l'occasion par Victor Lemann, celui qui avait, vous vous en souvenez, était derrière la musique et l'hymne des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y aura aussi des discours, bien évidemment, celui du président de Life for Paris, Arthur Desnouveaux, celui de Philippe Dupéron, le président de l'association 13-11-15, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et puis du président de la République, Emmanuel Macron. Tout cela dans ce jardin du souvenir qui est ouvert au public ici, juste derrière l'hôtel de ville de Paris depuis 4 mois maintenant, mais que beaucoup de Français et même beaucoup de victimes et de familles de victimes vont découvrir pour la première fois ce soir. Il y a ces 2 tribunes qui sont remplies de 1500 invités. Il y a évidemment des rescapés, des victimes, leurs proches et puis des policiers, des pompiers, des secouristes qui sont intervenus ce soir-là. C'est une cérémonie qui évolue comme un moment de communion nationale qui dépasse largement le simple cadre de ce jardin du souvenir. Un moment qui doit réunir la France entière en mémoire des 130 personnes tuées ce soir-là, des 2 victimes qui se sont donné la mort par la suite et puis évidemment des centaines, des milliers de personnes qui ont été marquées à vie par ce 13 novembre 2015.
Merci à vous Simon Le Baron ainsi qu'à Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. La mémoire individuelle des victimes et des familles endeuillées est encore terriblement en souffrance, selon Denis Péchanski, historien et directeur du programme 13 novembre, travail de recherche, étude qui explore la construction de la mémoire et celle des forces de l'ordre amenées à intervenir ce 13 novembre 2015. Florence Turm a rencontré Michel Caboche, ancien membre de la BAC 75 Nuit. Il évoque là l'assaut donné au Bataclan.
On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas combien ils sont, mais il faut y aller, ils sont en train de tuer tout le monde. Très rapidement, donc, les colonnes sont déjà constituées, on est équipé en équipement lourd. Moi, personnellement, je suis en deuxième position, derrière le bouclier lourd. Donc je pousse la porte battante et là, on est ébloui par le projecteur de la scène. On sent cette odeur de sang et de poudre, des chargeurs qui sont au sol, une mare de sang et des corps enchevêtrés les uns sur les autres. Et l'intervention donc du coup va se dérouler en fait comme ça jusqu'à la libération complète de la fosse avec des choix tactiques qui vont être quelquefois marquants. Quand je dis choix tactique, c'est du triage, c'est faire la différence entre les blessés et les morts, tout ce qui est urgence absolue, urgence relative. Au bout de 10 ans, c'est le genre de choses qui ont pu nous marquer. On ne peut pas oublier. Par contre, je vais en parler avec un certain recul. Autant que pendant plusieurs années, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que ces choix tactiques ont été bons ? Aujourd'hui, avec les années qui passent, on s'aperçoit qu'en fait, certaines victimes nous ont reconnus au procès, parce que du coup, on a été amené à témoigner aussi au procès. Avec le temps, en fait, on s'est aperçu que ces fameux regrets qu'on pouvait avoir d'un point de vue opérationnel ont été malgré tout bénéfiques.
Michel Caboche, ancien membre de la BAC 75. Plusieurs terroristes du 13 novembre étaient originaires de Molenbeek, commune belge déshéritée dans l'ouest de l'agglomération bruxelloise, une commune à laquelle le souvenir des attentats reste associé et qui essaie, vaille que vaille, de changer de visage grâce à de nombreuses initiatives qui ont vu le jour depuis 10 ans. C'est un reportage de notre correspondant à Bruxelles, Fabien Cazot.
10 ans après les attentats, les élus de Molenbeek veulent croire que leur commune a changé. Le socialiste Ahmet Djanaj assume actuellement les fonctions de bourgmestre, l'équivalent du maire.
Depuis 10 ans, il y a eu un travail quand même assez important qui a été fait, notamment aussi par les services de sécurité, services de police. La population a aussi mis en place elle-même des mécanismes de rejet par rapport à ce genre de secte, en fait.
Pourtant, cela reste toujours aussi stigmatisant de résider à Molenbeek. Ce père de famille de 45 ans, Ramazan, en a encore fait l'amère expérience dernièrement.
Je vais pour aller louer une voiture à Liège. Au moment de signer le contrat, il voit que j'habite Molenbeek, ça a annulé. On m'avait ramené la voiture, elle est là, je la prends. Il dit non, et on ne veut pas.
Molenbeek tente de changer son image, forte de son multiculturalisme. Elle s'est même rêvée capitale européenne de la culture en 2030. Sa candidature n'a pas été retenue, mais le projet a eu d'autres mérites, selon sa coordinatrice Fatima Zibou.
Cette candidature a permis de créer des connexions, des synergies avec des acteurs qui ne se connaissaient pas, des acteurs culturels, des acteurs de la jeunesse. Et donc en fait, cette candidature a permis de fédérer toutes ces initiatives positives, ces initiatives citoyennes pour réfléchir à un projet de ville.
Changer l'image de Molenbeek, un chantier de longue haleine, entamé, mais encore largement inachevé.
Fabien Cazot, à la fin de cette édition, il sera question dans notre rubrique du jeudi maire Pourquoi faire, du maire de la commune de Magnanville en banlieue parisienne, où le 13 juin 2016, un terroriste assassinait chez eux 2 policiers. L'ANSES produit aujourd'hui un rapport sur les risques dans le secteur du nettoyage et de l'entretien, ces fameux travailleurs essentiels que l'on a évoqués au moment du Covid. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a mené en effet une étude pluridisciplinaire sur ce secteur, dans lesquels travaillent 1,2 à 1,4 million de personnes, dont 73% sont des femmes. Et pour ces salariés, l'activité au quotidien est potentiellement un danger multifactoriel. Bonsoir, Wafia Kenich.
Bonsoir.
Eh bien, l'ANSES parle dans son rapport d'une forte sinistralité du secteur.
Oui, ces agents font face à tous les dangers, d'abord ceux liés aux produits et aux objets, qu'ils ou plutôt elles, vous l'avez dit, utilisent des substances chimiques dangereuses. Dans certains lieux, la présence de bactéries, de champignons, de virus. Ensuite, ces agents bien souvent travaillent dans le bruit, le froid et l'humidité, avec par ailleurs de la manutention et du port de charges lourdes. Dans ces personnels, on trouve un taux très élevé de personnes atteintes de troubles musculo-squelettiques. Vient s'ajouter à cela les horaires. Vous avez sans doute vu le matin dans les transports publics ces femmes qui partent aux aurores faire le ménage dans les entreprises. Horaires de nuit, horaires hachés, avec une coupure en milieu de journée, autant d'éléments dont on sait aujourd'hui qu'ils sont potentiellement déclencheurs de cancer. Mais ce n'est pas tout. La dimension sociale pèse aussi sur leur santé. Ces agents sont plus que dans d'autres secteurs en situation de précarité économique et sociale. Ils travaillent sur plusieurs sites, pour plusieurs employeurs et donc potentiellement dépendent de plusieurs services de prévention de santé au travail. Enfin, 35% de ces salariés travaillent pour des sous-traitants, ce qui, selon les auteurs du rapport, augmente les risques d'accidents de travail. Une main-d'œuvre aussi où les personnes sans papiers sont surreprésentées, des travailleurs qui n'ont par ailleurs pas les moyens de contester les abus de certains employeurs.
Wafia Kenich, l'inspection du travail pointe une exposition accidentelle à l'amiante de 393 personnes lors de travaux de réparation après l'incendie d'un haut fourneau sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque en 2023. Exposition directe de 85 travailleurs d'entreprises externes et une exposition indirecte de 308 salariés du sidérurgiste. Il est 18h09. Vous écoutez le journal de France Culture. Les paramilitaires ont mené aujourd'hui des frappes de drones sur une ville du nord du Soudan abritant un important barrage hydraulique dans une zone contrôlée par l'armée, alors que les combats s'intensifient dans la région centrale du Kordofan. La facture mondiale des importations alimentaires devrait augmenter de près de 8% en 2025 sur un an tiré par les cours du café et du cacao, bien essentiellement achetés par les pays riches. Ce sont là les relevés de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Marie, à quoi attribuer cette hausse significative ?
Alors, si les prix ont augmenté pour le café, thé, cacao et épices, plus 34%, eh bien, ce n'est pas parce que les paysans qui les récoltent gagnent mieux leur vie, mais parce que la production a chuté au Brésil, en Côte d'Ivoire et au Ghana à cause des perturbations climatiques. Plus fondamental pour l'alimentation, les produits laitiers, leur prix grimpe là de 16% du fait d'une production erratique, écrit la FAO, production rendue plus chère aussi par l'augmentation du coût des engrais qui en moyenne ont augmenté de 46% depuis septembre dernier. En sens inverse, le prix des importations de céréales et de sucre sont respectivement en baisse de 3% et 9%. Alors les changements de la politique commerciale américaine ont pu avoir un effet, mais sur certains produits seulement, notamment le soja américain qui a vu son prix baisser, mais potentiellement ils pèseront à l'avenir, anticipe la FAO. Si on se projette maintenant dans notre assiette, il y a bien sûr un lien entre la facture acquittée par les importateurs de denrées alimentaires et le prix des produits à la caisse, mais les variations ne seront pas identiques car jouent ensuite les marges des différents intermédiaires, industriels et distributeurs. Enfin, la FAO a étudié l'effet de ces hausses pour les pays à faible revenu. Elle a construit un indice de prix basé sur les protéines, ce qui nourrit donc. Et comme le prix des céréales a chuté, cet indice est en légère baisse. Seulement, la hausse des prix importés pour la viande, le poisson et les huiles végétales met en revanche à mal la diversité de leur alimentation.
Merci à vous Marie Viennot. Le chancelier allemand, dont le pays est le principal bailleur européen de Kiev, demande à Volodymyr Zelensky de lutter, je cite, « avec énergie contre la corruption en Ukraine ». L'Ukraine déstabilisée par un scandale de pot de vin, révélations qui ont conduit aux démissions des ministres de la Justice et de l'Énergie. Question faussement légère. Qu'ont en commun OSS 117, Kaamelott, le dessin animé Petit Ours Brun et l'humoriste Caroline Vigneault? Selon l'ALPA, l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, on en trouve des extraits à l'envi sur TikTok. Or, cette dernière n'a pas retiré ses œuvres de sa plateforme, comme le demandait la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Après avoir tenté en vain, depuis 4 ans, d'obtenir un accord à l'amiable pour que les auteurs soient rémunérés au titre de l'exploitation de leurs œuvres par le réseau social chinois. La Société des auteurs a donc signé la fin des négociations début novembre. Elle a assigné TikTok en justice devant le tribunal judiciaire de Paris. Selon Pascal Regard, le directeur général de la SACD, en l'absence de contrat, TikTok est aujourd'hui en position de contrefaçon.
Ça n'avance pas, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où au départ ils proposaient même aucune somme, là ils proposent des sommes absolument dérisoires. Un, les auteurs et les créateurs ne sont pas rémunérés, et deux, les plateformes concurrentes sont pénalisées. À un moment donné, ils nous ont dit « prouvez-nous que vous avez des œuvres de votre répertoire sur TikTok ». On l'a prouvé. Et maintenant, ils nous disent « ah ben c'est à vous de détecter les œuvres de chez vous qui sont sur la plateforme ». Non, c'est à eux de l'assurer. Il y a des règles à respecter, ils ne respectent pas. On leur a en fait demandé de retirer tout le répertoire de la SACD de leur plateforme, ce qu'ils sont incapables de faire. Comme ils ne rémunèrent pas les auteurs, ils sont en contrefaçon. Et c'est très compliqué de chiffrer le manque à gagner, puisqu'on ne sait pas l'étendue des dégâts. Et il y a quelque chose qu'on demande dans notre assignation, c'est d'avoir le chiffre d'affaires de TikTok en France. On ne connaît pas vraiment le chiffre d'affaires de cette entreprise. Le principe de la SACD, c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires des opérateurs qui utilisent des œuvres du répertoire de la SACD. Donc, soit ils reviennent à la table de discussion avec des propositions raisonnables, soit bah, ça sera au tribunal de décider. Mais j'estime qu'au bout de 4 ans, c'est quand même une olympiade. On peut essayer de se faire respecter. Donc, la seule manière de se faire respecter à un moment donné, c'est d'aller voir les tribunaux.
Des propos recueillis par Pierre Repère. L'audience est prévue le 18 mars, selon la SACD, contactée par l'AFP. TikTok n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Le prix Castel, prix littéraire du restaurant du même nom à Paris, a été attribué à Vanessa Schneider pour La peau dure aux éditions Flammarion. Le prix Jean Giono a été attribué au Belge Antoine Wouters pour son roman Haute folie chez Gallimard.
France Culture, élection municipale 2026. Maire,
pourquoi faire.
18h15 cette semaine, à l'occasion des commémorations des attentats du 13 novembre, nous nous intéressons au rôle de maire lors d'un attentat. Quel est son rôle lorsque sa commune est frappée? Comment travaille-t-on à panser les blessures? Comment agir sur la prévention de la radicalisation? Adrien Toffolet est allé poser ces questions à Michel Lebouc, maire communiste de Magnanville, en banlieue parisienne. Le 13 juin 2016, un terroriste assassinait chez eux deux policiers, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, au nom du groupe État islamique. Michel Lebouc était élu depuis à peine 2 ans. Il vit depuis, comme tous les habitants de Magnanville, avec cette cicatrice.
Bah, je vous en prie.
Ouais, je suis avec la presse, là, je te rappelle tout à l'heure.
Un début de mois de novembre agité pour Michel Lebouc.
Cette nuit, j'étais avec les services des sapeurs-pompiers de Magnanville. J'ai eu un incendie criminel sur des infrastructures de la commune. Et pas de chance, c'est dans la même rue où a lieu l'attentat.
La rue en question ressemble à n'importe quelle petite rue de pavillon de banlieue, l'allée des Perdrix qui n'a jamais vraiment quitté l'esprit du maire.
Quand je suis arrivé à 22h30 sur les lieux de l'incendie criminel, ça m'a perturbé, ça m'a remémoré en fin de compte ce que j'avais vécu.
C'était il y a 9 ans, l'assassinat de Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider chez eux, policiers dans les communes voisines que l'élu connaissait personnellement.
J'étais à une réunion sur Paris quand on m'a appelé. Au départ, c'était un forcené. Bon, après, on se rendait compte que c'était donc un attentat. Quand je suis arrivé sur place, le policier, Jean-Baptiste Salvin, venait de décéder devant mes yeux, vous voyez.
Et malgré l'émotion, Michel Lebouc doit jouer son rôle dans l'opération. Lui qui n'avait jamais imaginé, en devenant maire de cette petite ville de 6400 habitants 2 ans plus tôt, qu'il ferait face à une telle situation.
Quand on est maire, on n'est pas préparé à ce genre d'événement. Forcément, on est OPJ, ce qu'on appelle OPJ, officier de la police judiciaire sur sa commune. C'est nous qui prenons en charge les décisions sur la sécurité de la commune. Et là, heureusement qu'on est aidé parce qu'on est complètement paumé. Il faut réagir de bonne façon. Il ne faut pas faire de conneries, excusez-moi du terme. Mais dans le même temps, on est complètement perturbé.
Il avait à l'esprit l'enfant des policiers âgés de 3 ans retenus en otage. À ce moment, même assisté des équipes du RAID et de la BRI, il se souvient d'un poids immense à porter sur ses épaules.
On est sur le terrain, on est microté avec le RAID. On entend tout ce qui se passe et à un moment donné, la question elle arrive, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait? On va être obligé de pénétrer la maison et de charger. Et là, on ne sait pas répondre à cette question-là. Et j'ai pas répondu à cette question-là. Et là, on est confronté, à un moment de doute et on ne sait pas quoi faire.
Peu après minuit, l'assaut est finalement donné, le terroriste abattu et l'enfant sauvé. Dès lors, une nouvelle phase s'ouvre pour Michel Lebouc, celle de l'après.
Il faut gérer les voisins. Tout le monde avait été confiné chez lui. Il faut reloger les gens, vous voyez. On a eu tous les médias du monde entier qui sont venus. Je faisais des conférences de presse toutes les 2 heures, nuit et jour, pour essayer de les calmer, parce que forcément la presse voulait aller chez les gens. Il fallait protéger aussi les familles et puis se protéger nous-mêmes. C'est le rôle, le job d'un maire, entre guillemets, mais que j'aurais jamais pensé faire, quoi.
Veiller au bien-être de son équipe municipale, à celui de sa propre famille et au sien autant que possible. Les 2 années suivant l'attentat, le maire a souffert d'une hyperthyroïdie, une maladie auto-immune diagnostiquée comme étant en lien avec l'attaque. Difficile reconstruction donc, malgré un suivi des services de l'État, le drame reste une cicatrice pour lui comme pour les habitants de Magnanville, avec ce sentiment qui l'accompagne toujours aujourd'hui.
C'est la culpabilité de dire mais pourquoi ? Pourquoi sur ma commune ? Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? C'est des situations horribles et dans le même temps, à un moment donné, vous vous demandez si j'ai encore la main, qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrête ? Et c'est là qu'on n'a pas de réponse à ces questions-là.
Aujourd'hui, les questions de radicalisation sont gérées en lien avec la préfecture, mais le dossier n'est heureusement pas prioritaire dans le quotidien de Magnanville. Et Michel Lebouc n'a pas attendu les préconisations du plan national de prévention de la radicalisation pour prêter une attention particulière à l'éducation, aux activités culturelle et sportive, le cœur du vivre ensemble.
On met en place beaucoup d'événements pour essayer de rassembler les gens dans leur quartier, notamment la fête des voisins, les fêtes de fin d'année. On fait beaucoup d'initiatives et puis j'ai un tissu associatif important à Magnanville, culturel et sportif, ce qui veut dire qu'on essaye de générer tout le temps des événements en ce sens-là. Et moi, c'est ce qui me guide. Certainement plus maintenant, après les attentats, mais aussi période du Covid, forcément. Et c'est mon objectif que les gens se sentent bien à vivre à Magnanville. Vous êtes venu à Magnanville, c'est une charmante petite ville, mon cher journaliste. Voilà.
Le drame de Magnanville, comme les attentats de 2015, ont eu pour effet une remise à niveau des dispositifs de prévention de la radicalisation et de la gestion des attentats terroristes. Au niveau national, c'est le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation qui en a la charge. Au niveau local, ce sont les préfectures en lien direct avec des élus locaux. Un travail de fond qui a porté ses fruits selon Bruno Domingo, maître de conférences en sciences politiques à l'université de Toulouse-Capitole.
La plupart des collectivités territoriales, et notamment des maires, sont beaucoup mieux préparées aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier, parce qu'il y a eu des effets d'apprentissage. Les questions de terrorisme qui étaient jusqu'à présent plutôt centrées sur Paris se sont en effet diffusées dans un certain nombre de villes moyennes. Et cela a eu des effets pour les maires qui ont dû s'adapter à ce nouveau contexte sécuritaire.
Comment ces maires ont dû s'adapter justement ?
Ils ont d'abord été mobilisés en tant que capteurs, pourrait-on dire, sans doute sous impulsion de l'État, puisque des préfectures et plus largement le gouvernement a cherché à impliquer les maires, notamment dans la remontée d'informations par rapport à des profils de radicalisation, puisque l'avantage des services municipaux et des maires, c'est qu'ils sont proches du terrain. On se retrouve face à des jeunes qui sont souvent isolés, qui peuvent avoir aussi certains troubles en matière de santé mentale. Et donc le maire et toute l'architecture municipale ou intercommunale, tous les professionnels qui travaillent au contact des publics, notamment dans le champ éducatif ou social, eux sont susceptibles finalement d'identifier en tout cas des jeunes qui seraient vulnérables, avec une possibilité d'action pour éviter l'isolement, l'enfermement et le glissement vers ces logiques radicales. Donc les maires sont plutôt bien positionnés, peut-être parfois davantage que les services de renseignement, en tout cas d'une manière différente par rapport aux outils classiques de l'antiterrorisme.
Qui sont les interlocuteurs des maires ? Vous parliez tout à l'heure des préfectures. Quel est leur accompagnement des élus ? Est-ce que c'est un accompagnement uniquement sur les questions de radicalisation ?
Alors oui, les préfectures ont notamment multiplié les sessions de sensibilisation, de formation parfois. Les collectivités locales également, dont les mairies, ont également organisé souvent des ateliers ou des formations visant à mieux comprendre ce qu'on entendait par radicalisation et pour éviter par exemple certains amalgames qui sont susceptibles d'être faits sur ces questions. Donc l'enjeu de formation, il a été central, même s'il ne résout pas tout. Et ensuite, l'enjeu, peut-être, c'est celui de la prise en charge de certains mineurs ou majeurs, mais plutôt mineurs radicalisés, ou de certaines familles qui ont été affectées par ce phénomène. Et ici encore, les communes, ou plus largement les collectivités territoriales, je pense notamment aux conseils départementaux, sont en première ligne parce qu'elles disposent de compétences éducatives, sociales, qui sont utiles dans la prise en charge de jeunes, notamment en voie de radicalisation, et donc dont l'objectif est de prémunir la bascule vers une logique plus violente et donc vers le terrorisme.
Beaucoup de maires, d'élus, parlent de leur fonction comme d'un sacerdoce. Est-ce que cette gestion de la prévention de la radicalisation des attentats terroristes. Est-ce que ce n'est pas trop lourd à porter pour les épaules d'un élu local ?
Alors, les élus locaux, finalement, ils doivent intégrer aujourd'hui cette dimension, alors, à la fois de prévention, qui peut être finalement inscrite dans une forme de travail social. Quand on est très en amont des phénomènes et face à un public jeune, on est parfois très loin de l'attentat. Mais aussi, donc, de la réalisation d'actions violentes et par exemple, d'attentats. Donc, les maires, ils doivent articuler aujourd'hui tous ces enjeux. Ils peuvent le faire dans le cadre, par exemple, de leur stratégie locale de prévention de la délinquance ou de sécurité. Ils peuvent le faire dans, en effet, l'aménagement de leurs espaces urbains. Donc, ils sont tout à fait bien positionnés. Alors, bien sûr que c'est lourd, ce sont de nouvelles dimensions qu'ils doivent prendre en compte, mais ils l'intègrent progressivement dans ces différents documents, également, par exemple, dans leur PCS, les PCS, qui sont les plans communaux de sauvegarde, qui intègrent souvent aujourd'hui l'enjeu du terrorisme, pour sécuriser des sites ou des activités festives, et pour finalement aussi savoir comment réagir en cas de crise si un attentat survenait. Ils disposent aussi de policiers municipaux qui souvent patrouillent et sont présents sur l'espace public et qui sont parfois des primo-intervenants lorsque survient un attentat et avec la nécessité parfois pour ces professionnels de police d'intervenir en première ligne.
Bruno Domingo, maître de conférence en sciences politiques, interrogé par Adrien Toffolet, maire, pourquoi faire ? Une série à retrouver également sur le site de France Culture. Quelques mots de la météo de demain vendredi. Ciel très nuageux à couvert dans l'après-midi, température anormalement douce pour la saison. Ce journal a été préparé avec l'Agdar Olivier Benmalek, à la technique Julien Moulet.